Dans l'enceinte prestigieuse du siège de LVMH, située au 22 rue Montaigne à Paris, se tient un rituel mensuel singulier. Bernard Arnault réunit ses 5 enfants pour une assemblée familiale. Cette rencontre ne ressemble en rien à un repas familial typique où l'on échangerait des anecdotes anodines sur les activités du week-end. Au sein de ces murs ornés d'or se joue une scène fascinante, évoquant le suspense de la série télévisée américaine Succession. Bernard Arnault, patriarche septuagénaire, orchestre la conversation autour de la table. Il requiert de ses héritiers des réflexions stratégiques, évaluant leur aptitude à diriger un empire du luxe estimé à 500 milliards de dollars. Ces réunions, d'une durée de 90 minutes, sont chargées de tension. Chaque réponse devient une déclaration déterminante, pouvant influencer le futur de l'entreprise. L'objectif ? Discerner lequel de ses enfants, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric ou Jean, héritera du contrôle de ce conglomérat de marques de luxe. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir comment l'un des hommes les plus riches du monde s'apprête à faire le choix crucial de son successeur à la tête d'un empire du luxe colossal. Avec une fortune fluctuant entre 180 et 235 milliards de dollars, Bernard Jean-Étienne Arnault n'est pas seulement un acteur clé du secteur du luxe, il en est le pilier. En tant que PDG de LVMH, il dirige un ensemble de 75 marques prestigieuses, incluant Louis Vuitton, Christian Dior et Tiffany & Company. La famille Arnault, loin d'appartenir aux dynasties historiques, pourrait pourtant s'inscrire dans cette lignée avec le temps. Leur empire, qui s'est étendu au fil des années, est devenu tentaculaire et Bernard Arnault en est le patriarche fondateur. Revenons à la genèse de cet entrepreneur exceptionnel, afin de comprendre comment il a constitué et fait prospérer l'une des plus grandes fortunes mondiales. Son parcours est une alchimie, mêlant des prises de risques considérables, des stratégies commerciales novatrices, des offres publiques d'achat agressives, une certaine mainmise sur les médias, un recours aux paradis fiscaux et des relations avec le pouvoir politique. Les succès de la famille Arnault n'ont pas été exempts de controverses, qui sont souvent le lot des grandes fortunes mondiales. L'une d'elles concerne Bernard Arnault, qui, en janvier 2013, dépose une demande de naturalisation belge. Cette demande est accueillie par un avis défavorable du parquet de Bruxelles, principalement en raison de son incapacité à fournir la preuve d'une résidence principale en Belgique pendant 3 ans, critère essentiel pour l'obtention de la nationalité. De plus, une enquête est ouverte en Belgique autour du réseau d'entreprises et de fondations de Bernard Arnault. Cette enquête porte notamment sur une augmentation de capital de 2,9 milliards d'euros de la société Pilinvest détenue par Arnault. En juin 2017, les poursuites judiciaires sont suspendues après la conclusion d'un accord financier entre Bernard Arnault et le parquet, portant spécifiquement sur la question de la fausse domiciliation. Selon un documentaire diffusé par France 3, Bernard Arnault aurait versé 2,5 millions d'euros dans le cadre de cette transaction. Par ailleurs, les éléments susceptibles de constituer une évasion fiscale, révélés par l'enquête du parquet de Bruxelles, sont alors transmis aux autorités françaises pour gestion. En 2014, des informations émergent sur la présence de nombreuses filiales de LVMH dans des paradis fiscaux. Ces révélations suggèrent que le groupe utilise des juridictions pour minimiser ses obligations fiscales, une pratique courante des multinationales souvent critiquée pour son éthique douteuse. La situation s'intensifie en 2017 avec la publication des Pandora Papers, qui révèle que Bernard Arnault a placé des actifs dans plusieurs paradis fiscaux. Ces pratiques, répandues parmi les grandes fortunes mondiales, visent à minimiser l'imposition de manière légale. Il s'agit de la fameuse optimisation fiscale. L'affaire des Pandora Papers soulève alors des questions sur la responsabilité fiscale et éthique des individus et entreprises ultra riches. En 2018, Bernard Arnault se trouve au cœur d'une autre controverse. Des révélations indiquent qu'il aurait fait retirer des publicités LVMH de certains médias en réaction à des articles négatifs le concernant. Ces allégations soulèvent des questions sérieuses sur l'indépendance éditoriale dans les médias et la liberté de la presse, surtout lorsqu'elles sont contrôlées ou influencées par de puissants intérêts commerciaux. Plusieurs directeurs de la rédaction de la Tribune auraient indiqué en privé que Bernard Arnault intervenait directement pour influencer la couverture médiatique de son groupe, une pratique qui, si elle est avérée, pourrait être vue comme une tentative de contrôler l'information et de limiter la critique. La situation est exacerbée par l'acquisition du principal quotidien économique français, Les Échos, par un acteur dont la principale activité n'est pas la presse. Nicolas Bazire, l'un des collaborateurs de Bernard Arnault, aurait contacté des signataires, les enjoignant de retirer leur signature, sauf à risquer de ne plus jamais travailler avec LVMH. Cela suggère non seulement une tentative de manipulation de l'opinion publique, mais aussi une possible atteinte à la liberté individuelle et professionnelle des personnes concernées. Ces incidents soulèvent des questions importantes sur le pouvoir et l'influence des grandes fortunes sur les médias et, par extension, sur l'opinion publique. Les révélations autour de l'infiltration du journal Fakir par un service de renseignement privé à la demande de LVMH ajoutent une autre couche de controverse à l'histoire de la famille Arnault. Cette opération, dirigée par l'ancien chef des renseignements intérieurs français Bernard Squarcini, vise à surveiller les activités du journal, à collecter des informations et à prévenir ses actions. Les écoutes judiciaires confirment cette demande de LVMH à Squarcini et aboutissent en 2021 à un accord avec la justice sous forme de convention judiciaire d'intérêt public de 10 millions d'euros, permettant à LVMH d'éviter des poursuites pour espionnage. En 2023, le silence médiatique semble régner autour des informations concernant le faible taux d'imposition de Bernard Arnault. Ce silence est attribué à la crainte de représailles financières et juridiques, ainsi qu'à des liens potentiels avec le pouvoir politique en France. Les relations entre les familles Arnault et Macron suggèrent un lien significatif entre les sphères économiques et politiques, illustrant comment les connexions personnelles peuvent influencer les dynamiques de pouvoir. Cette amitié semble avoir débuté au lycée privé Franklin, situé dans le 16e arrondissement de Paris, où Brigitte Macron a enseigné le français à Frédéric et Jean Arnault. La rencontre ultérieure entre Delphine Arnault et Brigitte Macron a lieu à New York en 2014, en présence d'Emmanuel Macron et de Xavier Niel, et marque un rapprochement notable entre les deux familles. Depuis lors, Brigitte Macron est souvent vue portant des créations de Louis Vuitton lors de ses sorties officielles. Bernard Arnault, conscient de l'impact que peut avoir le soutien public d'une personnalité d'affaires influente, a soutenu Emmanuel Macron lors des élections présidentielles, mais de manière discrète, pour ne pas nuire à l'image du futur président. En plus de ses relations au sein de la politique française, Bernard Arnault a tissé des liens avec des personnalités politiques internationales, telles que Vladimir Poutine, Tony Blair et Donald Trump. Sa participation à des événements à la Maison-Blanche et sa présence en tant que témoin au mariage de Cécilia et Nicolas Sarkozy en 1996 témoignent de ses connexions étendues. Ces relations ne sont pas simplement symboliques, elles constituent un aspect fondamental de son succès. En cultivant des liens avec des leaders politiques de divers horizons, Bernard Arnault a non seulement accès à un réseau influent, mais cela lui permet également de naviguer dans les divers environnements politiques et économiques à l'international. Mais reprenons depuis le début. Bernard Jean-Étienne Arnault voit le jour le 5 mars 1949 à Roubaix, dans le nord de la France. Issu d'une famille aisée, il jouit d'une éducation bourgeoise enrichie par l'apprentissage du piano, de l'équitation et du tennis. Son père, Jean Arnault, diplômé du renommé lycée Louis-le-Grand et de l'école centrale de Paris, est un dirigeant d'entreprise, issu d'une lignée de militaires alsaciens. Marie-Joseph Savinel, sa mère, pianiste passionnée par Dior et originaire d'Auvergne, est la fille du fondateur de Ferré Savinel, société spécialisée en travaux publics établie en 1926. Jean et Marie-Joseph se rencontrent lorsque Jean Arnault travaille en tant qu'ingénieur chez Ferré Savinel. Un amour authentique les unit et ils convolent en juste noces le 12 avril 1947. En 1950, Étienne Savinel, père de Marie-Joseph, confie les rênes de son entreprise à son gendre, Jean Arnault. Le couple Arnault donne également naissance à une fille, Dominique Arnault, en 1950. Elle épouse Marc Vatine et, après avoir exercé la profession de commissaire-priseur, prend la direction de Fred Joaillier, plus communément appelé Fred, une enseigne française de joaillerie et d'horlogerie fondée en 1936 par Fred Samuel à Paris. Quant à Bernard Arnault, après un parcours scolaire et des études classiques, il intègre l'école polytechnique en 1969, dont il sort diplômé en 1971. Après avoir obtenu son diplôme, Bernard Arnault commence sa carrière en tant qu'ingénieur au sein de Ferré Savinel, l'entreprise familiale. C'est dans l'ambiance animée des usines du nord de la France, au milieu du bourdonnement rythmé des machines, que la famille Arnault s'ancre solidement dans le paysage industriel. Cette région, vibrante de l'énergie des travailleurs acharnés, sert de fondation à ce qui deviendra plus tard un symbole de luxe et de prestige. La famille Arnault, caractérisée par son audace et sa ténacité, ne recule pas devant les défis. Au contraire, il les relève avec détermination et vigueur, jetant les bases de leur future ascension dans le monde du luxe et de la haute couture. Cette approche dynamique et résolue dans le secteur industriel marque le début du parcours remarquable de Bernard Arnault, qui le mènera à devenir une figure emblématique du luxe mondial. Bernard Arnault occupe successivement de nombreux postes stratégiques au sein de l'entreprise. En effet, il est nommé directeur de la construction, puis, quelques années plus tard, directeur général. Ainsi, il peut rapidement convaincre son père de réorienter l'entreprise manufacturière, concentrée sur la construction et l'ingénierie, vers le secteur de l'immobilier, jugé plus lucratif. L'entreprise subit alors une transformation. Après avoir vendu sa division de construction industrielle, elle change de nom en Ferinel et devient la société Groupe Georges V. Plus tard, la branche immobilière est cédée à la Compagnie Générale des Eaux, qui deviendra Nexity. En 1981, suite à l'élection de François Mitterrand et à ses orientations économiques socialistes, Bernard Arnault décide de quitter la France pour s'installer aux États-Unis. Il confie alors la gestion de son entreprise française à Michel Lefebvre, un promoteur immobilier talentueux en qui il a toute confiance. Sur les terres de l'oncle Sam, Bernard Arnault fonde alors une nouvelle entreprise appelée Ferinel Inc. Il noue également des relations avec Donald Trump, un autre célèbre promoteur immobilier. En 1984, il fait son retour en France après avoir réalisé un projet immobilier nommé The Princess, sur les bords de mer de Palm Beach en Floride. Malheureusement, en raison de la proximité d'une centrale nucléaire et de problèmes de conception, ce projet se solde par un échec. Certains, comme le journaliste Airy Routier, estiment que Bernard Arnault et son associé ont été trompés. Cependant, Arnault se défend d'avoir subi une déconvenue et son projet américain reste pour lui une réussite. Ce retour en France s'annonce comme un moment décisif pour Bernard qui se voit offrir une opportunité par son ami Michel Godet. Cette opportunité concerne le dossier Boussac, une affaire complexe qui préoccupe le gouvernement de Laurent Fabius depuis un certain temps. À cette époque, et depuis les années 1970, le groupe Boussac, tout comme l'ensemble de l'industrie textile européenne, traverse une période de turbulences économiques, décourageant ainsi les investisseurs de prendre trop de risques. Dans ce contexte préoccupant, le gouvernement français de l'époque, pleinement conscient des enjeux socio-économiques liés à l'emploi et à l'industrie nationale, décide d'allouer d'importantes aides financières et subventions au groupe Boussac. Entre 1982 et 1985, ces aides atteignent près d'1 milliard de francs, une mesure prise dans l'espoir de résoudre la crise que traverse le groupe. Le groupe Boussac, à ce moment-là, est propriétaire de plusieurs actifs de grande valeur. Il détient notamment la maison de couture Christian Dior, à l'exception de la division parfum, le Bon Marché, Conforama et Peau Douce, fabricant de couches pour bébés. En décembre 1984, Bernard Arnault, alors engagé principalement dans le secteur immobilier, est missionné de reprendre le groupe Boussac et toutes ses filiales. Son principal objectif est d'acquérir Christian Dior, tout en sauvant le groupe de l'effondrement en préservant l'emploi et en évitant le démantèlement du groupe. Cette responsabilité représente une opportunité majeure pour Arnault, lui permettant de faire son entrée dans le monde du luxe et de la haute couture. La gestion de cette reprise par Bernard Arnault est considérée comme un tournant décisif dans sa carrière. Elle marque le début de sa transformation d'un promoteur immobilier en un titan de l'industrie du luxe, posant les bases de ce qui deviendra plus tard le groupe LVMH, un leader mondial dans le secteur du luxe. Pour mener à bien l'acquisition du groupe Boussac, Bernard Arnault bénéficie du soutien crucial de la banque Lazare, en particulier grâce à l'influence d'Antoine Bernheim, surnommé le banquier faiseur de rois. En effet, Antoine Bernheim est issu d'une grande famille juive de marchands de biens, de tradition financière et industrielle. En tant qu'associé gérant de la banque Lazare pendant de nombreuses décennies, il est célèbre pour avoir contribué à la construction des empires de Vincent Bolloré, Bernard Arnault et François Pinault. Au moment de l'acquisition, Bernard Arnault, agissant à travers le groupe Ferinel, prend l'engagement de préserver une grande partie de l'effectif de Boussac Saint-Frères. Sur les 16 000 emplois que compte le groupe, il promet de maintenir 12 252 postes. Malgré les subventions publiques reçues pour l'acquisition du groupe Boussac, Bernard Arnault ne parvient pas à tenir sa promesse de maintien de l'emploi, un fait qui lui sera reproché tout au long de sa carrière. Quelques mois après l'acquisition, le nombre d'emplois conservés tombe à 8 700, bien en deçà des 12 252 promis initialement et une partie du groupe est démantelée. Dans le processus, seule une partie des actifs initiaux du groupe, notamment Christian Dior et le Bon Marché, reste sous le contrôle de la famille Arnault. La vente de Peau Douce au groupe suédois Mölnlycke entraîne une réduction supplémentaire des effectifs. Finalement, le groupe Boussac, qui comptait autrefois 15 000 employés, n'en conserve que 8 000 après l'intervention de Bernard Arnault. En 1987, la Commission européenne s'implique dans l'affaire du rachat du groupe par Arnault, jugeant que les subventions accordées par le gouvernement français à Boussac, y compris pendant la période où il s'agissait d'une société à capitaux publics, ont créé une distorsion de la concurrence au sein des États membres. En conséquence, elle exige de Bernard Arnault le remboursement de 338,56 millions de francs, somme qui comprend les aides perçues par le groupe Boussac tant avant qu'après son acquisition par Arnault alors qu'elle était une société à capitaux publics. Cette affaire est marquée par la controverse, car Bernard Arnault, face à la demande de remboursement de la Commission européenne, refuse initialement le remboursement, arguant que l'État se servait lui-même ses aides, Boussac étant une société à capitaux publics avant son acquisition. Malgré un investissement personnel relativement modeste de 40 millions de francs et grâce au soutien d'Antoine Bernheim, Bernard Arnault réussit à prendre le contrôle de Boussac et à redresser l'entreprise. Quelques années plus tard, sa valeur en bourse atteint 8 milliards de francs, propulsant ainsi l'entrepreneur parmi les hommes les plus riches de France. C'est le début de son ascension vers la direction du géant du luxe, LVMH. En 1985, Bernard Arnault devient PDG de Dior. Et en 1989, il réunit les divisions parfums et couture au sein de la holding Christian Dior SA qui détient la marque de parfums Christian Dior, anciennement propriété de Moët Hennessy. Cette période marque le début d'une histoire remarquable dans le monde du luxe et de la mode en France. Bernard Arnault, en reconnaissant la valeur intrinsèque et le potentiel immense de la maison Christian Dior, s'engage activement dans une stratégie visant à renforcer la position de la marque dans le marché du luxe. Cette démarche implique des investissements significatifs dans des matériaux de haute qualité, le raffinement des processus de conception et de production, et un engagement envers l'excellence artisanale et stylistique qui caractérise les produits Dior. Pour concrétiser cette vision, il passe du temps dans les usines de confection, travaillant en étroite collaboration avec les artisans de la maison, supervisant chaque étape du processus de création pour s'assurer que la qualité et le style de Dior atteignent leur apogée. De plus, Arnault se concentre sur l'expansion de la présence mondiale de Christian Dior. Il ouvre stratégiquement de nouvelles boutiques dans les marchés clés du luxe, renforçant ainsi la visibilité et l'accessibilité de la marque. Ces magasins ne sont pas simplement des espaces de vente au détail, mais incarnent l'expérience Dior, conçue pour immerger les clients dans l'élégance et la sophistication de la marque. Ainsi, son attention constante à la résurrection de Christian Dior jette les fondations de ce qui va devenir un géant du secteur du luxe. Sous sa conduite, Dior ne recouvre pas seulement sa gloire passée, mais établit également de nouvelles références dans l'industrie de la mode. Néanmoins, les aspirations d'Arnault vont bien au-delà d'une seule enseigne. Il ambitionne de bâtir un empire. Et l'année 1987 sera une période décisive dans cette entreprise. Suite au crash d'octobre 1987, Bernard Arnault, toujours soutenu par son banquier personnel Antoine Bernheim, achète des actions de LVMH. LVMH est un tout nouveau groupe de luxe né de la fusion le 3 juin 1987 de deux groupes français, Moët Hennessy, Champagne Moët et Chandon, Champagne Ruinart, Champagne Mercier, Champagne Canard Duchesne, Cognac Hennessy et Louis Vuitton, Louis Vuitton Maltier, Givenchy, Champagne Veuve Clicquot Ponsardin. L'année suivante, en 1988, le groupe recherche des investisseurs. Le PDG de Louis Vuitton, Henri Racamier, et les actionnaires demandent alors à Bernard Arnault de prendre une participation plus importante dans la société. Avec plus de 25% des actions, il devient alors l'un des actionnaires principaux du groupe. À la même période, la direction de LVMH connaît de fortes difficultés. Outre la mésentente entre les familles, les deux coprésidents, issus de la fusion des entreprises, Henri Racamier pour Vuitton et Alain Chevalier pour les vins et spiritueux, divergent quant au choix stratégique du groupe, paralysant ainsi le développement de LVMH. Alain Chevalier souhaite revendre les activités vins et spiritueux. Henri Racamier, devenu minoritaire dans le nouveau groupe, veut retrouver l'indépendance de Louis Vuitton. Dans ce contexte, Bernard Arnault estime que le groupe LVMH doit avoir une direction unifiée et cherche à prendre la tête de l'entreprise. Il profite des désaccords entre les deux hommes clés et se positionne en tant que pivot pour l'avenir du groupe, formant des alliances successives avec les deux parties en présence. Pour acquérir le contrôle total du groupe, Bernard Arnault lance une offre publique d'achat. OPA. Profitant de la confusion sur les marchés boursiers et dans l'actionnariat, il devient le principal actionnaire de LVMH en juillet 1988, puis actionnaire majoritaire le 6 janvier 1989, avec le soutien de la Banque Lazare et du Crédit Lyonnais. Il évince ainsi Alain Chevalier de la direction. Le 13 janvier 1989, il est élu président du directoire de LVMH à l'unanimité. Henri Racamier déploie tous les moyens pour tenter d'annuler l'OPA de Bernard Arnault. Mais le 16 mai 1989, la commission des opérations de bourse conclut qu'aucune irrégularité n'a été commise. Ainsi, l'OPA est validé de facto et Bernard Arnault est confirmé à la tête de l'entreprise à seulement 39 ans. C'est un triomphe pour lui et sa famille. La structure financière de LVMH en fait un dirigeant actionnaire, lui permettant de diriger opérationnellement le groupe tout en étant son principal actionnaire. Bernard Arnault met en œuvre un plan de développement qui propulse LVMH au rang de premier groupe de luxe au monde. Pour atteindre ses résultats, il s'appuie sur deux principes clés de gouvernance. D'une part, il encourage la décentralisation des prises de décision concernant les différentes marques du groupe. Il est convaincu que la gestion des marques de luxe doit s'effectuer au sein d'une organisation décentralisée, où chaque entreprise opère de manière autonome indépendamment des autres. D'autre part, il se concentre sur l'acquisition de marques concurrentes ou émergentes. Les marques les plus solides au sein du groupe contribuent au financement de celles qui sont en cours de croissance. Cette stratégie se révèle particulièrement efficace. En tant que dirigeant de LVMH, Bernard Arnault se lance dans un ambitieux plan d'expansion qui transforme l'entreprise en l'un des plus grands conglomérats de luxe à l'échelle mondiale. Au cours de cette période, les chiffres de vente et les bénéfices annuels connaissent une croissance remarquable, tout en propulsant la capitalisation boursière de LVMH vers des sommets inégalés. En 11 ans, la valeur du groupe est multipliée par 15, tandis que le chiffre d'affaires et le bénéfice progressent de plus de 500%. La vision stratégique d'Arnault comprend des acquisitions stratégiques, parmi lesquelles Céline en 1988, Berluti et Kenzo en 1993, Guerlain en 1994 et Laue en 1996. Il réussit également à intégrer avec succès des marques telles que Marc Jacob et Sephora en 1997, tout en poursuivant l'intégration d'autres noms prestigieux comme Thomas Pink, Emilio Pucci, Fendi, DKNY et La Samaritaine en 2001. Dans les années 1990 et 2000, les acquisitions se multiplient au sein du groupe. Il rachète 21% des parts de Guinness et siège à son conseil d'administration. En 1997, il tente, en vain, de bloquer la fusion entre Guinness et Grand Met, qui aboutit à la création de Diageo en 1998. À la fin des années 1990, Bernard Arnault fait de l'art le pivot de sa stratégie de communication en acquérant Philips, le troisième acteur mondial de la vente aux enchères pour 125 millions d'euros, ainsi que Tadjan, leader français dans ce domaine. En 1996, le groupe de Bernard Arnault acquiert 38% du capital de Château d'Yquem, grand cru classé de Sauternes situé dans le vignoble bordelais. En 1998, il en devient l'actionnaire majoritaire avec 64% des parts. Entre 1998 et 2001, il s'intéresse à la nouvelle économie liée de l'Internet et investit notamment dans Boo.com, Liberty Surf et The Bank via sa holding spécialisée Europe at Web. Le crash des valeurs Internet, à partir de mars 2000, et plus particulièrement les attentats du 11 septembre 2001, le persuade d'accélérer sa sortie de ce secteur en les cédant au groupe Suez. Liberty Surf est vendu à Telecom Italia, tandis que The Bank est vendu à Egg PLC. Bernard Arnault investit également dans Betfair et Netflix, dont il devient le premier investisseur. L'année 1999 marque un tournant pour son empire. Arnault porte son attention sur les États-Unis en créant un centre à New York pour gérer la présence de LVMH. La tour emblématique LVMH, conçue par l'architecte Christian de Porzamparc, ouvre ses portes en décembre de cette année et son inauguration se déroule en présence de Hillary Clinton. Sous sa direction, LVMH continue à prospérer, élargissant son portefeuille et renforçant ses actifs en marques de luxe. Les décisions stratégiques d'Arnault favorisent la décentralisation des marques du groupe tout en préservant leur indépendance. Cette stratégie audacieuse s'avère être un succès, permettant à chaque artiste et couturier d'exprimer pleinement sa créativité tout en respectant le cadre fixé par l'entreprise mère, ce qui contribue au succès du conglomérat. Pendant son mandat, Arnault doit relever des défis, dont une bataille juridique avec Gucci en 2001. En 1999, il a acquis suffisamment d'actions Gucci pour lancer une OPA. Et après avoir atteint une participation de 34% dans Gucci, LVMH souhaite siéger à son conseil d'administration. Cependant, tous ne sont pas d'accord avec cette idée. De nouvelles actions Gucci sont alors émises pour les employés, diluant ainsi la participation de Bernard Arnault qui tombe à 25%. C'est une forme de provocation, mais Gucci est prêt à tout pour se défendre. La justice est sollicitée pour bloquer l'émission de nouvelles actions, tandis que Gucci engage parallèlement des poursuites contre LVMH. La confrontation s'annonce longue et difficile, marquée par des rebondissements quotidiens entre ces deux géants de la haute couture qui rivalisent d'ingéniosité et de stratégie. Dans cette lutte surnommée la guerre des sacs à main, chaque camp mobilise ses relations. Épuisé par cette OPA hostile, l'équipe de Gucci recherche un sauveur, un chevalier blanc providentiel pour la défendre. C'est alors que François Pinault, un autre homme d'affaires et milliardaire français, fait son entrée. En toute discrétion, il acquiert 40% des parts de Gucci. Cette position majoritaire est obtenue grâce à un accord octroyant 4 millions d'options sur actions à Tom Ford, valorisé à 3,75 milliards de francs, et 1 million à Domenico De Sol, le PDG de Gucci, d'une valeur de 750 millions de francs. L'acquisition rapide de Gucci sur Pinault intensifie la compétition entre les deux géants du luxe. Une rivalité silencieuse mais implacable s'installe entre Kering et LVMH, les deux principaux acteurs européens du luxe. Cette concurrence se joue dans les rues commerçantes des quartiers les plus huppés, chaque groupe cherchant à obtenir les emplacements les plus prestigieux pour leur enseigne de mode. Depuis le début des années 2000, la fortune de Bernard Arnault connaît une croissance exponentielle, alimentée par une série d'acquisitions qui élargissent considérablement le portefeuille de LVMH dans le secteur de la mode de luxe. En 2001, Arnault mène LVMH à l'acquisition de Fendi, fleuron de la mode italienne, marquant une étape décisive dans l'expansion de LVMH dans le luxe. Initialement, en 2000, LVMH avait acquis une part de Fendi aux côtés de Prada, mais en novembre 2001, le groupe devient l'actionnaire majoritaire en rachetant la participation de Prada. Puis, en 2004, Bernard Arnault porte son intérêt vers le secteur des montres et des bijoux. Constatant un potentiel inexploité dans ces segments, il dirige habilement LVMH vers l'acquisition de la marque suisse de joaillerie Tag Heuer pour un montant de 502 millions de dollars. Cette initiative stratégique judicieuse de Bernard Arnault propulse LVMH au premier plan de l'industrie des montres de luxe avec la promesse de mener Tag Heuer vers de nouveaux horizons encore inexplorés. De la même façon, l'année 2011 est significative dans l'histoire de LVMH avec l'acquisition de Bulgari, le géant italien du luxe consolidant davantage la position dominante de LVMH dans le secteur des bijoux haut de gamme. À cette époque, la passion d'Arnault pour l'art et la culture devient particulièrement évidente. Il se distingue comme un collectionneur d'art de renom, rassemblant des œuvres majeures de Picasso, Warhol, Yves Klein et Henri Moore. Sa collection, d'une valeur sans doute inestimable, témoigne de son engagement personnel envers les arts. Le groupe LVMH a soutenu plus de 10 expositions, parmi lesquelles Le Grand Monde d'Andy Warhol, Picasso et les maîtres au Grand Palais, l'atelier d'Alberto Giacometti ainsi que Yves Klein au Centre Georges Pompidou. En outre, la fondation LVMH a institué le concours international Prix LVMH des jeunes créateurs, accessible aux étudiants des écoles des beaux-arts en France et à l'international. Le projet de la fondation Louis Vuitton, initié en 2006 par Bernard Arnault, vise à promouvoir l'art contemporain. Conçu par l'architecte Franck Guéry, le chantier est interrompu en 2011 suite à des plaintes de riverains, mais a repris la même année. L'inauguration du bâtiment prestigieux a lieu en octobre 2014 en présence de François Hollande. La collection de la Fondation Louis Vuitton valorise des artistes contemporains de renom, tels que Gérard Richter, Bertrand Lavier, Christian Boltanski, Olafur Eliasson, Thomas Schutt et Pierre Hugh. Pour Bernard Arnault, la Fondation est un espace de dialogue avec le public et d'échange intellectuel. En 2014, Bernard Arnault reçoit le prix David Rockefeller du MOMA, le Museum of Modern Art, financé par la famille Rockefeller. Il devient ainsi le premier non-américain à recevoir cette distinction. En 2016, il organise une exposition réunissant la collection de Sergei Tchouchkine à la Fondation. En 2018, un rapport de la Cour des comptes révèle que les entreprises du groupe LVMH ont réduit leurs impôts de 518,1 millions d'euros entre 2007 et 2017, notamment grâce aux dons à la Fondation Louis Vuitton, réalisés principalement pour améliorer l'image du groupe. Suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, la famille Arnault et le groupe LVMH annoncent un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction de cette cathédrale emblématique, considérée comme un symbole de la France, de son patrimoine et de son unité. Le 23 septembre 2019, Bernard Arnault signe une convention de mécénat avec la Fondation Notre-Dame pour officialiser ce don. En 2023, face aux difficultés financières des Restos du Cœur exprimées par Patrice Douré, président bénévole de l'association, Bernard Arnault et sa famille font un don de 10 millions d'euros. Ce geste suscite des réactions contrastées. Certains membres de la gauche le perçoivent comme une charité de façade insuffisante, tandis que d'autres saluent l'initiative du milliardaire. Tom Benoît, essayiste et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, rappelle dans une tribune publiée dans Entreprendre que ce don ne bénéficiera pas de déduction d'impôt, reflétant ses préoccupations sur le climat social en France. Le talent d'Arnaud pour stimuler la croissance et créer des synergies est manifeste. Il fusionne le monde du luxe et de l'art par des collaborations entre Louis Vuitton et Jeff Koons par exemple. Cette capacité à associer l'art et la mode de luxe souligne le rôle de LVMH en tant que leader dans l'industrie du luxe. Cependant, bien que la fortune de l'Empire continue de croître, le temps, lui, ne s'arrête pas. Les années passent et Bernard Arnault n'a toujours pas désigné clairement de successeur pour son empire, désormais estimé à une valeur à 14 chiffres. Nous nous sommes penchés sur le parcours professionnel de Bernard Arnault, mais pour saisir pleinement l'ampleur de sa réussite, il est essentiel d'explorer également sa vie personnelle. Cette dimension offre une vision plus complète de l'homme derrière l'Empire, révélant comment ses expériences, ses relations et ses valeurs personnelles ont forgé son itinéraire. Le 5 mai 1973, Bernard Arnault épouse en premières noces Anne de Waveringhe, née en 1950. De cette union naissent deux enfants. Delphine Arnault, en 1975, qui devient administratrice du groupe LVMH en 2004 et PDG de Christian Dior Couture en 2023, et Antoine Arnault, en 1977, qui occupe le poste de directeur général de Berluti. Après son divorce en 1990, Bernard Arnault se remarie en 1991 avec Hélène Mercier, une pianiste québécoise. De ce second mariage, il a trois fils. Alexandre Arnault, né en 1992, directeur exécutif de Tiffany & Co. Frédéric Arnault, né en 1995, PDG de Tighauer. Et Jean Arnault, né en 1998, directeur marketing et développement pour les montres Louis Vuitton. Les enfants Arnault sont éduqués au lycée privé Saint-Louis de Gonzague, fréquenté par les enfants de l'élite parisienne. Frédéric et Jean Arnault y suivront les cours de français de Brigitte Macron. Bernard Arnault accorde une grande importance à l'éducation de ses enfants, souhaitant leur offrir le meilleur. Depuis 2010, Bernard Arnault est le beau-père de Xavier Niel, un autre homme d'affaires milliardaire et vice-président d'Iliad qui a épousé sa fille Delphine. Delphine Arnault se distingue comme l'une des figures marquantes de la famille Arnault. Ayant passé une partie de son enfance à New York, elle y a été exposée à une diversité culturelle enrichissante, lui permettant de maîtriser à la fois le français et l'anglais. Sa formation, alliant la rigueur de l'excellence française à des compétences économiques acquises dans le système britannique, la positionne comme une femme d'affaires tout aussi redoutable que son père. Diplômée de l'EDHEC Business School et de la London School of Economics en 1997, Delphine Arnault fait ses premières armes professionnelles chez McKinsey Consulting à Paris, aiguisant ainsi ses aptitudes en matière de stratégie. Elle rejoint l'empire familial en 2000 chez John Galliano, devient rapidement directrice commerciale de Dior dès 2001, puis directrice générale adjointe en 2008, supervisant notamment le développement des articles en cuir et des accessoires. En 2013, Delphine Arnault accède à la position de vice-présidente exécutive de Louis Vuitton, prenant les rênes de la marque dans le secteur hautement compétitif du luxe. Sa gestion, caractérisée par une élégance et une finesse notables, ainsi que son soutien indéfectible envers les talents créatifs, lui valent une reconnaissance appuyée dans l'industrie. Cette trajectoire ascendante atteint un point culminant en 2023, lorsque Delphine Arnault est nommée PDG de Christian Dior, affirmant ainsi sa place prééminente au sein de la dynastie Arnault et consolidant son influence dans le monde du luxe. Malgré le parcours professionnel impressionnant de Delphine Arnault, Bernard Arnault reste évasif quant à la désignation de son successeur. Delphine, avec son influence prépondérante au sein de LVMH et son leadership affirmé, semble être une candidate de premier plan dans cette course au pouvoir. Néanmoins, l'avenir reste incertain et seul le temps révélera le choix de Bernard Arnault. Penchons-nous maintenant sur Antoine Arnault, né à Roubaix et qui partage également un parcours marqué par les États-Unis où il a côtoyé le melting pot culturel new-yorkais aux côtés de Delphine. Son parcours académique le mène à HEC Montréal, une étape cruciale qui le façonne en un homme d'affaires accompli. Son immersion dans le monde professionnel débute dans l'entrepreneuriat de l'Internet, avant de rejoindre Louis Vuitton en 2002, où il se distingue par son expertise en marketing. En 2012, Antoine Arnault prend les rênes de Berluti et conduit la marque vers de nouveaux succès financiers. Puis, en 2013, il devient président de l'Europiania, une autre marque prestigieuse du groupe LVMH. En plus de ses responsabilités, il pilote également la communication et l'image de LVMH, jouant un rôle clé dans l'entreprise familiale. En 2018, la position d'Antoine Arnault au sein de LVMH prend une dimension stratégique et sa responsabilité s'étend au-delà des opérations traditionnelles, incarnant désormais un effort délibéré pour renforcer la présence numérique du groupe. Les spéculations sur sa potentielle succession à la tête du groupe sont alimentées par les ajustements subtils de Bernard Arnault concernant l'âge limite de direction de l'entreprise. Il y a également Alexandre Arnault, né en 1992, incarnant la nouvelle génération dynamique de LVMH. Formé dans des institutions éducatives prestigieuses à Paris et à la London School of Economics, Alexandre allie rigueur académique et approche décontractée typique de l'univers de la mode. En tant que vice-président exécutif chez Tiffany & Co., depuis 2023, il insuffle un vent de fraîcheur et d'innovation à la marque. Alexandre Arnault se révèle être un catalyseur essentiel pour le développement de la marque, insufflant un mélange dynamique de technologie et d'innovation dans son ADN. En tant qu'expert du numérique, il joue un rôle crucial dans la transformation de l'empreinte technologique du groupe Arnault. Sa capacité à intégrer la technologie avec précision et savoir-faire démontre sa compréhension profonde des enjeux actuels et futurs de l'industrie du luxe, où l'innovation numérique devient aussi importante que la qualité artisanale. Frédéric Arnault, né en 1995, est un jeune dirigeant audacieux à la tête de Tag Heuer. Formé au sein des prestigieuses écoles françaises, son ascension au poste de PDG évoque la précision et l'ambition d'une mission d'alunissage. Sous son égide, Tag Heuer ne se contente pas de maintenir son cap. La marque connaît une croissance fulgurante. Sous sa direction, certains modèles de montres deviennent des objets de désir, aussi prisés que le fameux ticket d'or dans l'univers de Willy Wonka. Cette métamorphose marque l'empreinte indélébile de Frédéric dans l'industrie de l'horlogerie de luxe. Jean Arnault, le benjamin de la famille, s'impose également dans l'ombre de ses frères et sœurs aînés. Avec une formation académique solide, comprenant un double diplôme en mathématiques financières et en génie mécanique, il occupe une position stratégique chez Louis Vuitton. Son rôle dépasse celui d'un simple directeur. Il est un véritable architecte du développement et du marketing. Jean Arnault intègre habilement la stratégie, l'innovation et le lancement de nouveaux produits, orchestrant le tout en une mélodie harmonieuse de succès qui renforce la position de Louis Vuitton. La grande interrogation qui demeure est de savoir qui succédera à Bernard Arnault à la tête de LVMH. Cette question reste enveloppée de mystère. Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean Arnault, chacun avec ses compétences uniques et son parcours impressionnant, représentent des candidats potentiels pour reprendre les rênes du groupe LVMH. Le choix final, dépendant d'une combinaison de facteurs tels que l'expérience, la vision stratégique et la capacité à diriger un conglomérat d'une telle envergure, reste une décision attendue avec impatience par le monde des affaires. Seul le temps révélera qui parmi eux montera sur le trône de ce géant du luxe. Bernard Arnault est aujourd'hui une figure emblématique du monde des affaires et occupe une place singulière. En tant que président directeur général de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, le plus grand conglomérat de produits de luxe au monde, il possède une fortune remarquable, évaluée à 146 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg des milliardaires en date du 21 septembre 2023. Sous la direction d'Arnault, LVMH a consolidé un portefeuille impressionnant de plus de 75 marques prestigieuses couvrant une large gamme de segments, allant de la mode à la joaillerie, en passant par les spiritueux et la cosmétique. Cette hégémonie dans le secteur du luxe confère à Bernard Arnault une influence considérable, bien que son parcours et ses méthodes aient également suscité leur part de controverse. La famille Arnault, à la suite d'une année 2022 historiquement lucrative, a encaissé près de 2,9 milliards d'euros en dividendes en 2023, une somme astronomique représentant environ 120 000 fois le revenu médian net en France. Cette somme considérable, issue des performances exceptionnelles de LVMH, pose la question de son utilisation, d'autant plus que la famille n'a pas encore établi de fondation philanthropique notable. Il semble que la réponse de la famille Arnault à cette interrogation soit de continuer à consolider leur position dominante sur le marché du luxe. En effet, dès mars 2023, LVMH a lancé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 1,5 milliard d'euros, surpassant le milliard d'euros de l'année précédente. Durant les deux dernières années, Bernard Arnault a augmenté sa participation dans le capital de LVMH, passant de 46,43% à 47,14%, malgré une hausse de 27% de la valorisation de l'entreprise. Au-delà de leur succès et des controverses, la famille Arnault incarne un paradoxe, opposant l'ombre des critiques à la lumière de la réussite entrepreneuriale. Malgré les nombreuses polémiques liées à l'optimisation fiscale et aux promesses non tenues en matière d'emploi, il est indéniable que les Arnault ont su bâtir un empire transcendant l'industrie du luxe pour devenir un pilier de l'économie française. Le nom Arnault est synonyme de milliers d'emplois, en France et à l'international, perpétuant l'excellence de l'artisanat et du savoir-faire français. Les chiffres sont éloquents, reflétant une croissance et une expansion qui profitent à de nombreux secteurs connexes. Les Kohl's, Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, représentent désormais un pan essentiel de l'industrie française, en l'absence de ressources naturelles ou de géants technologiques comparables aux GAFAM. Les Arnault ont propulsé le luxe français à un niveau d'excellence reconnu mondialement, exportant une image raffinée et désirable de la France. Le luxe est devenu un ambassadeur de la culture et de l'art de vivre à la française. Leur vision stratégique et leur ambition ont hissé l'industrie du luxe français à un niveau d'excellence, lui permettant un rayonnement culturel et économique international. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le succès ne saurait occulter les zones d'ombre. On ne peut donc négliger les débats autour de l'éthique fiscale et sociale qui nécessitent une attention continue. La réussite de la famille Arnault doit être mise en balance avec ses préoccupations. En somme, leur contribution à l'économie et au rayonnement de la France est indéniable, mais elle s'accompagne d'une nécessité de vigilance et de débats éthiques.
T'as pas de 100 francs ?
Si.
Lui, c'est Lucas. Et il fait les mauvais choix.
Je te les rendrai.
Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous. On en fera bon usage, pas comme nos élites.
Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue.
On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.